Radio Kapi. Oh, Kapi.
Affrontement vendredi dernier entre deux groupes armés FRPI et FPIC au village de Toulabo en Ituri. Le bilan fait état de 25 morts. À la base, ils se disputent le contrôle d'une carrière minière dans la région. L'épidémie de monkeypox sévit dans la province du Maïndombe où l'on déplore déjà 5 morts et plus de 100 cas confirmés. Le chef de division provinciale de la santé appelle au respect des gestes barrières et la non-consommation des animaux présentant des éruptions cutanées. Notre invité dans cette édition du journal est Félix Kalala, coordonnateur national de la Ligue pour la promotion socioculturelle, une structure de la société civile. Il s'exprime à l'occasion de la clôture jeudi dernier de la session 2022 de l'examen d'État. Il formule également des recommandations pour élever les niveaux de l'enseignement en RDC. Voilà tout pour le sommet. Mesdames et messieurs, bonjour. En Ituri, environ 25 morts parmi les miliciens de la force des résistances patriotiques de l'Ituri FRPI et ceux du Front patriotique et intégrationniste du Congo FPIC. C'est le bilan provisoire des affrontements qui ont opposé vendredi ces deux groupes armés au village de Toulabo dans le territoire d'Iromo. Selon des sources sécuritaires, ces deux groupes armés se disputent le contrôle d'une carrière minière dans la région. Le point avec Marcel Kizabiamungu depuis Bounia.
C'est depuis une semaine que les miliciens de la force des résistances patriotiques de l'Ituri FRPI et ceux des fronts patriotiques intégrationnistes du Congo FPIC s'accusaient mutuellement d'être à la base des vols de bétail de la région de Toulabo. Selon des sources de sécurité, ces conflits entre les deux groupes armés s'est accentué lorsque la FPIC a voulu prendre le contrôle total d'une carrière minière dans la zone. Ce que la FRPI n'a pas dû gérer. Les deux groupes armés se sont alors livrés à des combats toute la journée de ce vendredi à Toulabo entre les chefferies de Walindou Binti et Andy Soma. Ces affrontements se sont poursuivis dans la nuit de vendredi à samedi. Plusieurs sources concordantes affirment que 9 corps de miliciens du FPIC ont été ramassés vers Toulabo ce samedi matin. Du côté de la FRPI, des sources sur place parlent d'environ 10 miliciens tués, dont un de ses leaders bien connus dans la région des Bavimoter sous le nom de Mandéré. Plusieurs éléments de la FRPI blessés seraient admis dans des structures médicales de Walindou Binti, affirmé des sources coutumières dans la zone. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Et puis dans la province du Haut-Tuélé, l'activisme des rebelles de LRA a sensiblement baissé au cours des 5 dernières années dans les territoires de Faradjé. Selon les autorités locales de cette entité qui l'ont dit ce samedi à Radio Kapi, cette amélioration est due au système d'alerte précoce mis en place par l'ONG internationale Invisible Children. Un vaste projet dont l'objectif est d'impliquer tous les membres de la communauté à remonter en temps réel les informations sécuritaires auprès des autorités en cas de tentative d'incursion des cerbelles. Le point dans ce reportage depuis Faradjé avec notre envoyé spécial Jean-Claude Lokidile.
Ce projet qui est exécuté dans les deux provinces du Haut et Bas-Uélé vise à former les membres de la communauté afin qu'ils soient en mesure de contourner des dangers dans la zone où opèrent différents groupes armés. L'on a 3 membres de la communauté ont ainsi été dotés de radiophonie reliées entre elles pour relayer en temps réel les alertes sécuritaires. Thomas Bolbanzé, le responsable de ce projet.
Quand il y a une alerte, qu'est-ce que nous faisons? Sensibilisation de toute la communauté, demander par exemple aux femmes de ne pas aller seules à la source d'eau, aux champs, aux de ne pas aller seul à la chasse pour se protéger avant que le danger n'arrive dans leur communauté.
Du côté des autorités locales, on note une nette amélioration des conditions sécuritaires, ce qui a permis aux nombreux habitants de reprendre les activités des champs et à de nombreux enfants de reprendre le chemin de l'école. Jean-Marie Gaspard Maudry-Voudry est l'administrateur du territoire assistant de Faradji.
La population est tapée. Il y avait parfois les coupées des routes avec les là où il y avait enlèvement des gens. Maintenant, les gens travaillent. Il n'y a rien, pas de menaces, pas de coupées de routes. Les gens peuvent voyager. On est plus les gens, ce phénomène a disparu. C'est grâce à Invisible Sud qui complète d'autres forces aussi.
Notons que ce programme s'inscrit dans le cadre du projet de résilience communautaire en Afrique centrale, financé par l'Agence américaine pour le développement international USAID. De Faradjé, Jean-Claude Lokidile, Radio Kapi.
Et puis, insécurité dans la province du Maniema. Le sénateur Jérôme Bikenge Moussimbi, en vacances parlementaires au Maniema, demande au gouverneur intérimaire de prendre ses responsabilités en main. Au cours d'un tête-à-tête avec ce dernier dans son cabinet de travail, Bikenge Moussimbi, Jérôme, déplore et condamne ce qui s'est passé à Kalima avec des cas de justice populaire, situation qui est à la base de cette insécurité en ces jours. On l'écoute au micro de Florence Kizalunga.
Pour ce qui est de la sécurité, il faudrait que j'insiste là-dessus. Ce qui s'est passé à Kalima, c'est dérapage. Je le condamne en tant qu'humain. Même si on a des raisons, aussi bonnes soient-elles, on ne peut pas arriver à faire ce qu'on a pu faire à Kalima. Il faudrait que les gens réfléchissent deux fois avant de poser les actes. Et à ce niveau-là, il faudrait que les responsabilités soient établies, tant sur le plan pénal que sur le plan administratif. Afin que l'autorité de l'État et les pouvoirs publics fassent le travail qui est le leur. Ce travail, c'est restaurer l'autorité de l'État vis-à-vis des fauteurs de troubles. Si d'une manière ou d'une autre, ils peuvent avoir des informations qu'on croit qu'il y a tel individu ou tel autre, telle personne ou tel autre, qui serait des mèches avec l'ennemi, mais il y a des services qualifiés pour ça, pour dénoncer. On ne se fait jamais justice dans une société moderne. Au-delà de cet acte qui a été posé, il y a une insécurité récurrente à Kalima. Cette insécurité doit cesser. Moi, j'ai géré cette province, je sais de quoi ça retourne. Le plus souvent, l'insécurité qui s'étend à ce niveau-là, elle est faite des officiels qui sont en connexion avec les rébis sociaux. Nous sommes venus dire au gouverneur qu'il prenne ses responsabilités.
Autre nouvelle, création d'une institution consacrée à la gestion optimale de l'environnement et des ressources naturelles dans la sous-région de l'Afrique de l'Est. Cette proposition a été faite par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé à la clôture vendredi 22 juillet du 22e sommet ordinaire de l'EAC à Arusha en Tanzanie. D'autres détails avec vous, Piro et Lamiji.
Ce sommet auquel la RDC a assisté pour la première fois en tant que membre à part entière de la communauté des États d'Afrique de l'Est a vu le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé prendre la parole au nom du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. C'est ainsi qu'il a proposé dans son discours la création dans la sous-région d'une institution devant gérer de manière optimale les ressources naturelles, les mines et l'énergie ainsi que les questions environnementales en ce moment de la crise liée au réchauffement climatique. Une nouvelle institution dans laquelle, selon Samalou Kondé, la RDC entend jouer un rôle particulier. Tout en souhaitant l'adhésion de tous les membres de la communauté à cette proposition, le Premier ministre de la RDC a indiqué aux autres membres que cette institution jouera un rôle pleinement majeur dans les décisions des politiques régionales et l'atténuation de leurs effets. Notons que ce 22e sommet ordinaire a été le passage de relais entre le président kenyan Uhuru Kenyatta et burundais Evariste Ndayishimiye, respectivement président sortant et nouveau président de l'EAC. Ce dernier a promis de continuer à renforcer la sécurité, la responsabilité politique, la bonne gouvernance et à institutionnaliser le mécanisme d'intervention rapide de l'EAC.
Et puis en plus bref, une délégation de leaders religieux congolais conduite par le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le pasteur Godem Poyi, a échangé hier vendredi au quartier général de la MONUSCO à Kinshasa avec la chef de cabinet de la mission, Madame Nathalie Ndongosi. Les leaders religieux ont sollicité le concours de la MONUSCO pour mettre fin au conflit meurtrier qui endeuille continuellement l'est de la RDC. Une demande qui, selon Madame Ndongosi, entre parfaitement en ligne avec la démarche de la mission qui ne relâchera pas ses efforts car les Congolais sont une partie de cette humanité que l'ONU sert à travers le monde, a-t-elle affirmé. La province de Maïndombe est fortement touchée par l'épidémie de monkeypox qui a fait déjà 5 morts et plus de 100 cas confirmés depuis le début de l'année 2022. Cette contamination se justifie par le contact avec les animaux malades, souvent abattus par des chasseurs dans cette province entourée de forêts. Le chef de division provinciale de la santé, Dr Faustin Bekunda, qui donne l'information, en appelle au respect des gestes barrières et à la non-consommation des animaux présentant des éruptions cutanées. Irène Bouma.
Depuis le début de l'année en cours jusqu'à ce jour, la province de Maïndombe a déjà enregistré au total 114 cas confirmés de monkeypox. Parmi ces cas, le chef de division provinciale de la santé parle de 5 décès, soit 7% des taux de létalité. Et la tranche d'âge la plus affectée, d'après lui, part des 15 ans. Docteur Faustin Bekunda précise que 8 zones de santé sont touchées sur les 14 que compte la province. Pour cette autorité sanitaire, cette maladie, appelée aussi variole des singes, se transforme transmet par le contact avec un animal ou une personne déjà contaminée. Docteur Foster Bekonda appelle la population au respect des règles d'hygiène afin de se prévenir de la dite maladie.
Nous préconisons de faire ces barrières. Un animal que vous voyez qu'il y a des lésions comme ça, des vérifions, autant ne pas les toucher. Même en famille, un enfant, une femme, un homme qui a des lésions semblables à la variole, c'est des choses cutanées, autant prendre des dispositions au lieu que vous contaminez directement, puisque s'il n'y a pas de mesures barrières, la maladie est très contagieuse et peut se répandre à toute la province.
Il fait de noter que la province de Mai Ndombe étant entourée de grandes forêts avec beaucoup de gibiers, chaque année, elle enregistre des cas de monkeypox, a déclaré son chef de division provinciale de la santé. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Et puis à Beni, dotation ce samedi à l'hôpital général de Beni d'un pavillon pour la prise en charge médicale des blessés par balle par le comité international de la Croix-Rouge. Une satisfaction pour le médecin directeur de cette structure sanitaire qui salue ce partenariat et promet d'en faire une bonne gestion. Marc Marofimbo.
C'est en ces termes que les bénéficiaires ont accueilli cette dotation du Comité international de la Croix-Rouge pour une prise en charge gratuite de qualité aux blessés par armes et victimes de conflits et violences armées dans le Grand Nord Kivu. Angelo Willy Botolai, chef du bureau du CICR à Beni, décrit ce pavillon.
C'est deux bâtiments d'une capacité totale de 48 lits. Il y a aussi des salles de stérilisation, une salle d'isolement et bien d'autres. L'objectif de cette remise, c'est justement d'appuyer les autorités sanitaires à améliorer la prise en charge de qualité et de gratuite des blessés par armes issus des conflits et des violences.
Satisfaction pour le médecin directeur de l'hôpital général de Beni qui a promis une gestion responsable de ce bâtiment, Dr. Franck Mouido Fikiri.
En recevant cet ouvrage ce jour, je tiens à vous rassurer que nous allons le gérer à bon père de famille, c'est-à-dire il ne sera utilisé que pour la prise en charge des blessés par armes jusqu'à la fin du projet pour lequel ce bâtiment a été construit.
Démarré depuis le mois d'avril dernier, la construction de ce bâtiment a coûté 75 000 dollars américains. Notons que depuis janvier à ce mois de juillet, 326 blessés par balle sont pris en charge par CICR en partenariat avec l'hôpital général de Beni. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Autre nouvelle, au sud Kivu, exploitation illégale des minéraux au sein du parc de Kahuzi-Biega. Des acteurs de la société civile œuvrant dans la protection de l'environnement en RDC lèvent la voix et plaident pour la fin de l'impunité contre les crimes environnementaux dont est victime le parc de Kahuzi-Biega. C'est dans ce contexte qu'ils ont effectué une visite ce vendredi au parc pour rencontrer les gestionnaires du site. Une note de position contre l'exploitation des ressources naturelles dans cette aire protégée a été remise au chef de site. Josué Aruna, président de la société civile environnementale du Sud Kivu, a fait partie de cette délégation. Il explique le sens de cette démarche au micro de Cynthia Bachizi Nabizana.
Aujourd'hui, parce qu'à cause de l'impunité, nous sommes en train de voir la naissance de plusieurs groupes armés, parce qu'on s'est dit non, parce que celui-là n'a pas été condamné, moi aussi je peux entrer dans les parcs, aller faire l'exploitation des minéraux, aller couper les bois, détruire cette aire protégée, aller prendre les gorilles, aller prendre les chimpanzés, les singes, même si l'État congolais a cédé une part de responsabilité sur la gestion du site aujourd'hui avec un secteur privé. Le patrimoine, c'est un patrimoine mondial sous les droits de propriété de l'État congolais, conformément aux constitutions de la République. Et c'est l'État congolais qui doit nous aider à assurer la protection de ce patrimoine mondial. Donc, nous allons contacter les autorités provinciales, les autorités nationales, à tous les niveaux, même le président de la République, pour que nous puissions trouver leur engagement et leur implication pour que le parc national de Kahuzi-Biega soit effectivement protégé.
Et puis, début hier vendredi à Malembakulu, dans la province du Haut-Lomami, de l'opération de la paie des enseignants. Cette paie intervient après plusieurs réclamations et un mouvement de grève déclenché par les enseignants, dont certains ne se sont pas empêchés d'effectuer plusieurs kilomètres à pied jusqu'à Kamina, chef-lieu de la province, pour faire entendre leur voix à Jangandou.
Ces enseignants, plus d'une fois, ils dénonçaient la lenteur de la banque qui les payait et surtout qu'ils devaient chaque fois effectuer des longues distances, souvent à pied, afin d'atteindre la ville de Kamina pour toucher leur salaire. Ils réclamaient ainsi que leur paye soit désormais assurée par la Caritas. Et ces choses faites, les agents de la Caritas se sont déployés jusqu'à Malembankoulou pour cette fin. Un motif de satisfaction pour le député provincial élu de Malembankoulou qui s'est impliqué aux côtés d'autres pour que ces enseignants soient rétablis dans leurs droits. Paul Senga.
C'est avec une grande satisfaction pour nous, les élus, de l'intervention du gouvernement de débloquer la situation des enseignants dans la province du Haut-Lomami. Il est souhaitable que le gouvernement central prenne toutes les dispositions pour que cette situation ne se répète plus.
C'est donc un sentiment mitigé qui anime ces professionnels de la CREE. D'une part, ils sont très contents de toucher leur salaire après une très longue période d'attente. D'autre part, ils sont déçus de constater que le gouvernement n'a disponibilisé que la paye de 2 mois sur les 4 attendus. Delvo Timboumwepo, enseignant à l'Institut Batoma Onza.
Par une surprise, nous avons le paiement de 2 mois. Or, nous avons 4 mois d'un paiement. Nous demandons aux autorités afin que nous puissions avoir nos salaires de 4 mois.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Actualité internationale.
En Centrafrique, une vingtaine de partis politiques et d'organisations de la société civile ont créé hier vendredi à Bangui un bloc républicain. Un principal objectif de cette plateforme, contester le projet de réforme de la Constitution de 2016. La révision de la Constitution aurait pour conséquence de faire sauter les verrous du nombre de mandats présidentiels, ce qui permettrait au président Faustin Archange Touadéra d'en briguer un troisième. Et puis, des missiles russes ont visé ce samedi le port d'Odessa sur la mer Noire, a annoncé l'Ukraine au lendemain de la signature par Kiev et Moscou d'un accord devant permettre la reprise des exportations de céréales ukrainiennes bloquées par la guerre. La Russie assumera l'entière responsabilité en cas d'échec de l'accord sur les exportations de céréales, prévient Kiev, qui accuse le président russe Vladimir Poutine d'avoir craché au visage de l'ONU et la Turquie.
L'invité.
Notre invité dans cette édition est Félix Kalala, coordonnateur national de la Ligue pour la promotion socioculturelle, une structure de la société civile. Il s'exprime à l'occasion de la clôture, jeudi 21 juillet de la session 2022 de l'examen d'État sur l'ensemble du pays. Il fait également des recommandations pour élever les niveaux de l'enseignement en RDC. Félix Kalala est interrogé par Alain Irung.
Félix Kalala, bonjour.
Bonjour.
La session 2022 de l'examen d'État s'est clôturée jeudi 21 juillet 2022. Il y a 1 à 2 semaines, il y avait d'autres examens d'évaluation, l'ENAFEP pour les élèves de 6e primaire et le TENASOSP pour les élèves de 8e. Quelle analyse faites-vous de tous ces tests d'évaluation?
Oui, je voudrais d'abord féliciter sincèrement tous les élèves à tous les niveaux, bien sûr, au niveau secondaire que primaire, pour les efforts qu'ils ont fourni. Vous savez, depuis pratiquement 2 ans, nous faisons face à la crise sanitaire due au Covid-19. Cela a fait que même le programme ou les prévisions des matières soient chamboulées, et puis le programme annuel a été secoué, et c'est tant mieux si aujourd'hui nous avons quand même eu le temps et l'occasion d'organiser ces examens-là. Moi, je pense que cela mérite quand même des félicitations à l'endroit de nos élèves, et puis je voudrais être de cœur avec les élèves qui sont dans la partie orientale où il y a l'insécurité qui sévit et qui frappe à plein fouet.
Certains experts en éducation continuent à décrier le niveau des élèves qui participent à ces tests d'évaluation en estimant que le niveau de l'éducation a baissé, la gratuité a échoué.
D'emblée, je voudrais vous dire que c'est tout à fait malheureux de constater que certains compatriotes passent le clair de leur temps à critiquer négativement la gratuité de l'enseignement, selon qu'on veut peut-être utiliser ça comme prétexte pour régler les comptes à un pouvoir qui ne plaît pas. Mais moi, je pense que déjà la gratuité en elle-même, c'est une disposition constitutionnelle qui a été mise en application par le président de la République. S'agissant de la baisse de la qualité de l'enseignement, je voudrais d'abord vous dire que du point de vue général, les prestations dans plusieurs secteurs de la vie nationale sont au rabais par rapport à leur qualité. Et le président de la République l'a reconnu. Voilà pourquoi ici, je plaide justement pour que on puisse, par exemple, requalifier le système éducatif dans notre pays, que les enseignants soient motivés de façon conséquente, parce que cela va conditionner aussi la qualité de l'enseignement qu'ils sont en train de produire. C'est un peu ça, mais moi je pense que s'attarder tout simplement à la problématique de la gratuité, c'est de la mauvaise foi.
Quand vous parlez de la réqualification de l'enseignement ou de l'éducation, qu'est-ce que vous voulez dire?
Je plaide, par exemple, pour la révision du cadre juridique qui régit l'éducation dans notre pays. Vous savez, en France, par exemple, il y a la loi qui a été initiée par Jules Ferry en rapport avec l'éducation l'éducation en France, et cela continue à produire encore des impacts dans ce sens que l'éducation française a directement un trait avec le projet de développement. Donc, je pense que ce n'est plus le moment de former des pédagogues, parce qu'il y en a beaucoup. Ce n'est plus le moment, et peut-être je peux vous choquer, ce n'est pas le moment de former encore des juristes, parce qu'il y en a beaucoup. C'est plutôt le moment de former des vétérinaires, c'est le moment de former des techniciens, des maçons, des électriciens, des experts en pratique piscicole, en agriculture, tout ça pour être en phase avec les exigences de notre développement. Je pense que en cela, nous allons gagner, parce qu'on aura défini la gouvernance en matière d'éducation pour effectivement répondre aux besoins immédiats du développement de notre pays. Comme nous parlons de la requalification pratiquement du secteur de l'éducation, que chaque entreprise de l'État puisse avoir son école, que chaque établissement de l'État puisse avoir son école, autant nous avons les hôpitaux de la DGRAD, de l'OCC, ou c'est pas moi, de la DGDA, on peut avoir aussi les écoles de toutes ces entreprises publiques où on ne parlera plus des grèves pour autant que les enseignants seront leurs employés. Je pense que ça vaut quand même la peine. Je dis au Premier ministre, sinon au Président de la République, de se référer à ce qui se passait à la GECAMINE, parce que je ne peux que donner mon propre exemple. Donc, avec la GECAMINE, il y avait des écoles à tous les niveaux, maternelle, primaire et même secondaire. Aujourd'hui, c'est possible même de créer des universités.
Le gouvernement, on le sait, est en train de fournir beaucoup d'efforts pour élever le niveau de l'éducation en RDC. En plus de ce que vous avez dit, s'il y avait d'autres recommandations ou conseils, ce serait quoi?
Moi, je pense que chacun doit mettre le cœur à l'ouvrage. Ici, je demande au personnel enseignant, que je suis aussi, de ne pas faire du chantage en termes, par exemple, de grève. Qu'est-ce que nous constatons? À la veille des examens, on brandit une revendication. Comme quoi, si nous ne sommes pas payés par rapport à telle ou telle autre prime ou par rapport à nos arriérés de salaire, on ne va pas organiser les examens. Ça s'appelle tout simplement grève, chantage et ça ne fait pas un sou de bénéfice.
Félix Kalala, merci.
Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.